RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
François Giuseppi et Tony Parker.
Bonsoir, bienvenue dans le Tony Parker Show comme tous les lundis sur RMC 21h 22h. Bonsoir monsieur Monclar.
Bonsoir François.
T'as vu,
bonsoir.
J'ai changé Tony. Comment ça va Tony ?
Ça va bien.
J'ai commencé par Jacques ce soir.
Salut Tony.
Salut Jacques. Hein.
Ouais.
Tony, encore un programme exceptionnel, petit point météo d'abord, comment ça va à San Antonio ? Nous en France on se les gèle un petit peu quand même.
Je ne vais pas vous énerver.
D'accord.
Okay, ils ont remis de l'électricité dans le ciel, donc c'est pas si mal, même s'il caille.
Un beau programme en perspective jusqu'à 22h, puisque nous accueillerons Jean-Pierre Sutal, président de la Fédération française, qui revient des États-Unis. Il y a énormément de choses à voir avec lui. Et puis ce sera un Tipeee Show très omnisport, puisque nous accueillerons le cycliste Nasser Bouani, qui revient du Paris-Nice. Et l'événement de ce Tipeee Show, c'est Lucadine, le joueur de l'AS Roma prêté par le Paris Saint-Germain, qui sera dans cette émission avant 22h. On n'oublie pas l'actu olympique, puisque Loïc Pietri, le judoka, prépare les JO de Rio. Il était forfait pour le tournoi de Paris. Il sera avec nous dans quelques minutes dans ce Tipeee Show. Le hashtag RMC Live, c'est le mot-clé pour venir interagir sur les réseaux sociaux dans cette émission, tout comme le 3216, le numéro du standard d'RMC. Vous en avez pris l'habitude pour participer à cette émission. Posez vos questions à Tony, à Jacques ou à nos invités. C'est parti donc pour une heure de show. Mais avant cela, les directs en cours avec la Ligue 2, Red Star Auxerre, Arnaud Souk.
32 minutes de jeu ici du côté du stade Pierre Brisson à Beauvais. C'est Auxerre qui mène toujours 1-0 depuis la 19e minute. Et un but de Guirassy, le Red Star qui court après cette éventuelle montée en Ligue 1. S'il perd ce soir, eh bien c'est surtout Auxerre qui va se remettre dans la course pour la montée. 33 minutes de jeu, 1-0 pour la JO Auxerre face au Red Star.
La proie de basket, l'autre direct en cours, c'est Gravelines Nanterre, Jean Baumel.
Bonsoir François, et on est dans le deuxième carton, 31-29 pour Gravelines. C'est toujours aussi serré dans ce deuxième carton, il reste 3 minutes, une tentative à 3 points, et ça rentre pour Nanterre. Du coup, eh bien, ils prennent l'avantage pour la première fois de la partie, 32-31 pour Nanterre ici, face à Gravelines dans le deuxième carton, à 2 minutes 50 secondes de la fin.
RMC, le Tony Parker Show.
Alors messieurs, il y a une petite déviante par rapport à la semaine dernière, puisque San Antonio a perdu un match dans la semaine qui vient de s'écouler. C'était contre Indiana à Indiana. Il a le sourire Jacques, non, parce qu'il nous l'avait annoncé en plus. Ouais. Tu l'avais annoncé.
J'avais profité que Tony soit plus à l'antenne.
Ah, c'était hors antenne. Tu vois comment il est, Tony.
Non, je l'avais dit à l'antenne. Je le sentais, Tony. De temps en temps, faut en perdre un, puis c'était l'heure, quoi.
C'est pas faux. C'est vrai que contre Indiana, on n'a pas été bon. On n'a pas mis dedans. Je crois que c'est un des plus mauvais matchs de la saison au niveau du pourcentage. Et comme tu l'as dit, hein, c'est comme ça. Des fois, ça arrive dans le basket. Il y a des moments où des fois, ça rentre pas.
Alors par contre, vous êtes bien revenu dans la foulée, puisque victoire contre Minnesota, Chicago et Oklahoma City. L'ajustement a été très très rapide avec des enchaînements et ça va continuer. Si on revient sur la semaine, tu viens de parler de la défaite d'Indiana tout de suite. Ça s'est enchaîné, Minnesota, Chicago, Oklahoma. Il y a un point commun entre les trois victoires.
Bon, c'est juste que là, on va commencer une grosse série à domicile contre des équipes qui sont en play-off. Et donc ça a commencé contre Chicago, on a fait un match très très sérieux, c'était pas facile, Chicago ils ont sorti un gros match. Et donc après Oklahoma pareil, Oklahoma ils ont une grosse équipe, on a dû batailler jusqu'à la fin. Et c'est vrai que pareil, on va enchaîner Clippers, Portland et Golden State, donc trois équipes qui sont en playoff, donc ça va être des gros matchs. Et donc c'est des bons tests pour nous, et de voir un peu où on en est, on va dire un mois des playoffs.
Est-ce que, Tony, est-ce que Greg Popovich, avant de jouer Oklahoma City, vous avez donné un repère de points, parce que les tenir à 85 points, eux, c'est une performance
93-85 la victoire. Oui, finale, ouais.
Mais 85.
Ouais, non, c'est vrai que c'était une grosse perf défensive, parce qu'il marque plus de 110 points par match, c'est une des meilleures attaques en NBA. Mais nous, on a la meilleure défense, une des meilleures défenses de la NBA, donc c'était le test et savoir qui va imposer son jeu, et donc on a bien su contenir Westbrook et Durant.
Tony, c'est un peu facile, mais il y avait une vraie ambiance play-off dans ce match-là.
Ouais, c'est vrai qu'on sent l'excitation des gens, hein, ça commence à monter. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est à un mois des play-offs, donc tu sens un peu que tout le monde se prépare, et là, les cinq matchs-là, c'est un bon test.
Et puis moi, je voulais dire aussi, parce que c'est une vraie perf, en plus c'est contre Chicago, et on sait que ça tient à cœur à Tony, 12 passes d'ess. Belle perf, hein.
Ouais, Ça faisait longtemps. Coach a annoncé pas mal de systèmes pour moi sur ce match-là par rapport à la défense de Chicago. Donc voilà, moi je reste dans mon nouveau rôle, on va dire, de cette année. Et donc des fois il y aura des trucs pour moi, des fois il y a pas grand-chose. C'est comme ça, ça dépend, on va dire, des matchs et des défenses.
Ce match-là faisait, vas-y Jacques.
Juste, est-ce que, sans être méchant du tout, hein, est-ce que le Big Sui a pas changé, c'est pas devenu Aldridge, Léonard et toi?
Oui, bien sûr. Hein, ça, on va dire ça a changé, ça c'est sûr. Hein, de toute façon, la priorité maintenant, c'est de chaque match, c'est toujours essayer de mettre en rythme Kawhi et LaMarcus. Et on va dire, moi, je suis une sorte de comme t'as dit, une sorte de troisième option. Et donc, là, contre Oklahoma, on n'en avait pas besoin, parce que LaMarcus et Kawhi ont été très très bons. Kawhi a été super agressif. Donc, comme j'ai dit, hein, quand t'es la troisième option, ça dépend des matchs. Et après, Manu et Tim, ça va dépendre aussi des matchs, s'ils vont être performants ou pas, mais ils font plein d'autres choses sur le terrain. C'est à nous d'être performants sur le terrain, on va dire, sur d'autres parties du jeu que ce que, enfin, pas le scoring, mais autre chose, en fait.
C'est pas une surprise que dit Tony de dire que le nouveau Big Three a changé, mais le dire officiellement, c'est définitivement entériné qu'on est passé dans une autre ère, Jacques, à San Antonio.
Bien sûr, et Tony était souvent associé à deux gars qui ont 4, 5, 6 ans
de Duncan
lui,
et Ginobili.
Il est le lien, et pour Greg Popovich, c'est bien d'avoir un gars qui fasse le lien entre les deux Big Three, pour la structure des Spurs aussi, pour les fans aussi, et pour
par rapport à son poste aussi.
Bien sûr, et sachant que Tony avant était un peu le, avec Manu Ginobili, mais Tony aussi, Manu Ginobili un peu plus une forme d'électron libre, et maintenant il a plus une attitude de taulier. C'est une évolution du jeu, c'est une évolution d'options, c'est aussi une évolution d'âge.
Tu fais vieux, Tony, ça y est.
Non.
Oh, je rigole. Tu vois, à chaque fois que je vais dire quelque chose, ça va être l'agression.
Mais non.
J'ai pas souligné ta cravate bleue, d'ailleurs.
T'as raison, ça commence. De toute façon, je vais avoir 34 dans deux mois, donc non, c'est sûr.
34, papa.
C'est sûr que là, je rentre. Là, je suis plus dans mon prime, Jacques.
Jérémy est avec nous dans un instant au 32-16. Il voudrait revenir sur l'état de forme et le temps de jeu de Boris Diaw. Un petit mot, Tony, sur Chicago, puisque c'était aussi le match qui marquait ton retour, blessé à l'orteil contre Indiana. Comment ça allait, comment tu te sens? Donne-nous tes nouvelles aussi.
Petite blessure contre Indiana, rien de grave. Et donc, comme c'était un back-to-back, comme d'habitude, l'expert ne voulait pas prendre de risque. Donc, ils m'ont mis au repos. Et comme Tim et Manu, ils étaient au repos aussi, on a décidé de prendre ce match off. Et donc, après, je suis revenu tout de suite contre Chicago. J'ai joué 32 minutes direct contre Chicago, je me sentais bien.
Oui, le temps de jeu prouve que ça allait bien.
Et de taper Chicago, Tony Senior a pas râlé, t'as pas dit que t'étais un traître,
non? Non, ça va.
Ça va.
On rappelle,
ça fait toujours plaisir de battre le boulot.
On rappelle, Chicago est aussi une ville qui compte beaucoup dans la famille de Tony, bien sûr, puisque ta famille est aussi originaire de l'Illinois. Comme promis, Jérémy est avec nous au 32-16. Salut Jérémy.
Salut François, salut Jacques, salut Tony.
Salut. Jérémy, tu voulais revenir sur Boris qui joue avec Tony à San Antonio, mais qui n'a pas forcément un temps de jeu comme tu le souhaiterais.
Bah ouais, justement, ouais, je voulais voir avec Tony parce que il a, on va dire, de moins en moins de temps de jeu ces temps-ci. Il joue 10 petites minutes contre OKC et 3 contre Chicago, alors que d'habitude il tournait un petit peu plus, il a une demi-heure de jeu il n'y a pas si longtemps. Donc voir si c'est une petite méforme de sa part ou si c'est un vrai choix du coach de qu'il soit numéro 2, on va dire, maintenant dans la rotation à son poste. Ouais. Donc,
Non, mais je crois que c'est un choix du coach. Hein. C'est juste que la concurrence, elle est rude. Hein. Tu sais, t'as Tim Duncan, t'as la Marcus Aldridge et t'as David West. Et après, les équipes qu'on joue en ce moment, ils jouent petit. Donc, quand je dis petit, c'est-à-dire qu'on joue avec un grand et quatre petits, en fait, sur le terrain. Et donc, je pense que c'est un choix. Hein. C'est comme ça. En plus, le coach, à mon avis, pendant les playoffs, les rotations, elles sont encore plus fermées. Et bon, j'espère qu'il va jouer plus. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, il est en dehors, on va dire, de la rotation. En ce moment.
C'est West un peu qui a pris plus de temps de jeu sur lui, quoi.
C'est ça, c'est David West en fait qui joue plus par rapport à l'année dernière où Boris il avait 20 minutes, 23 minutes de temps de jeu. Là, on va dire c'est David West qui a pris ses minutes parce qu'après on joue petit et donc c'est Kyle Anderson après qui joue beaucoup plus que l'année dernière parce qu'il joue justement en position 4.
Ça dépendra des matchs aussi. Et puis,
ça dépendra des matchs, voilà, des match-up.
Et connaissant un petit peu le personnage Boris et imaginant le personnage Popovic, je pense que c'est une manière de l'utiliser aussi, de lui d'envoyer un message et de reconcentrer le bestiau.
Voilà Jérémy, j'espère que tu es satisfait. On te remercie d'être venu au 32-16. On reparle bien évidemment de l'actu NBA et de l'actu basket dans cette fin d'émission. J'aurais d'ailleurs des questions sur le hashtag RMC Live sur, sur crème de la crème. On n'en dit pas plus, Tony. C'est une annonce de la semaine. Ce sera avant 22h. Dans quelques instants, Jean-Pierre Ciuta, le président de la Fédération Française de Basket qui revient des États-Unis, sera avec nous dans ce Tipeee Show sur RMC. Mais avant ça, détour par les directs Red Star Auxerre, la ligue de Arnaud Souk.
Avec la grosse occasion pour le Red Star et finalement la JOCR qui mène toujours 1-0 ici, 42 minutes en première période. Il y a des occasions un petit peu dans tous les sens avec une nouvelle tête pour le Red Star et on en restera là. 1-0 donc pour Auxerre pour cette 30e journée de Ligue 2.
Jean Baumel, Gravelines Nanterre, c'est de la proie le basket, Jibo.
Et c'est la mi-temps, à l'instant même, 42-35 pour Nanterre, qui a fait la différence dans cette fin de second carton. Et du coup, c'est un bel avantage compris pour l'instant les hommes de Pascal Donadieu. Donc 7 points d'avance pour les joueurs de Nanterre face à Gravelines ici au Sportica.
Allez, à tout de suite pour la suite de ce Tipeee Show comme tous les lundis sur RMC avec Tony Parker depuis San Antonio, avec Jacques Monclar et vous au 32-16, Jean-Pierre Ciuta dans un instant, le patron de la Fédération Française.
RMC 21h-23h, le Tony Parker Show. RMC, le lundi 21h-22h, c'est le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Et bien sûr, Jacques Monclar, jusqu'à 22h, le 32-16, pour participer à l'émission, le hashtag RMC Live. Beaucoup de questions sur le retour de Jean-Pierre Ciuta des États-Unis, le patron de la Fédération Française, qui est avec nous dans un instant. Le temps pour nous de refaire un tour de nos directs. Red Star Auxerre, Arnaud Souk, la Ligue 2.
Et c'est tout juste la mi-temps, François, ici au stade Pierre-Brisson, là où joue le Red Star pour ses matchs de Ligue 2. Et c'est la JOCR qui mène 1-0 et la JOCR qui franchement est plutôt dominatrice, on va dire, sur cette première période. C'est un but inscrit par Cédric Guirassy, c'était à la 19e minute sur un coup franc, une belle passe décisive du maître à jouer, Gaëtan Courté, donc à la mi-temps. 1-0 pour Auxerre qui se replace dans la course à la montée.
Allez, c'est parti, direction la Fédération Française, la rue du Château des Rentiers, c'est le siège de la Fédé.
RMC, le débrief basket.
Beaucoup de choses à dire et à évoquer avec Jean-Pierre Ciuta, Tony, le président de la Fédération Française de Basket, qui revient d'un déplacement aux États-Unis où il a rencontré de nombreux joueurs NBA. Et JPS, Jean-Pierre Ciuta est avec nous dans ce Tipeee Show, Tony.
Salut Jean-Pierre, ça va?
Salut Tony, tu vas bien?
Ben ça va, hein, ben merci de venir sur l'émission. Ben un petit bilan alors sur ton séjour, ça s'est bien passé?
Ouais, ben écoute, j'ai passé quelques jours à San Antonio, il faisait très beau, un peu plus. Il y a eu un superbe match contre Chicago avec une belle prestation de Tony. Bon, c'était bien. Ben écoute, j'ai vu Rudy. Je dois voir les jeunes aussi. Evan et puis Geoffrey. Bon, le but c'est de conserver toujours ce lien amical avec vous tous. Hein. Enfin, je trouve que c'est très très important. Et on a une réunion de travail le 23 avec Patrick Bisquet et Vincent pour discuter un peu des scénarios possibles, tout simplement. Mais bon, on est optimiste. Première étape c'est le TQO et deuxième étape c'est les jeux. On veut être performant sur les jeux. Hein.
Bah Jacques, je vais te laisser poser des questions.
Hein. Oh non, oui, c'est vrai que là, t'es un peu un bonjour Jean-Pierre d'abord.
Salut Jacques.
Le problème on le connaît, c'est qu'on a des joueurs en fin de contrat, Jean-Pierre, et que en gros il va falloir qu'ils prennent un risque puisque la validation, et on pourra en parler. Et d'ailleurs, je suis assez chafouin sur ce dossier-là. Je trouve inadmissible que la FIBA et n'ait pas adapté la date du TQO aux validations des contrats NBA. Je trouve ça vraiment dommageable et de mauvais goût. Mais bon, ça.
Je rappelle la date du TQO, c'est du 5 au 11 juillet.
Comme par hasard la validation des contrats NBA et le 12. Et je ne peux pas croire qu'on n'ait pas pu anticiper ça. Bon, je le regrette. Maintenant, est-ce que nos joueurs vont prendre le risque ou est-ce qu'on se prépare, Jean-Pierre, à partir sans une partie de notre
contingent
NBA?
Bon, deux choses là, Jacques. La première, depuis 2012, moi je me bagarre avec la FIBA pour qu'on change cette date au moins l'année olympique. Voilà, oui. Qu'on la passe à fin juin, etc. Bon. ça paraissait pas très compliqué, mais il s'avère que rien n'a été fait. Et c'est vrai que ça impacte que peu de nations. Et la France est impactée. Il y a quelques nations qui ont quelques problèmes, comme l'Italie, l'Espagne, etc. Mais nous, on est impactés puisqu'on fait le TQ. Ça, c'est le premier point.
Et le Canada.
Le deuxième point.
Et le Canada aussi.
Oui, le Canada, oui, bien sûr, le Canada. Oui, je parlais.
Oui, tu parlais de FIBA Europe, bien sûr.
voilà. Deuxième réponse. Ouais, bon, concernant les joueurs, on a trois dossiers qui sont sensibles. C'est le dossier de Rudy, c'est le dossier d'Evan et c'est le dossier de Nico. Ces trois sont des cas particuliers. Concernant Rudy, il est toujours sous contrat. Il peut à un moment donné signer une extension de contrat avec un gros. Je dirais un gros contrat à l'appui. Donc ça peut se faire vite, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, mais ça peut se faire aussi au mois de septembre. Donc le cas de Rudy est déjà en lui-même une spécificité. Bon, ce que je sais, c'est que Rudy veut faire les Jeux Olympiques. Ça, il y a cette confirmation. Après le reste, bon, on verra concernant le TQO. Ce sont des choses que je vais débattre avec Vincent et Patrick. Et concernant Evan et Nico, on le sait, ils sont free agent. On sait qu'il y a une montée à puissance des salaires vu le contrat extraordinaire de
des droits télé. Oui.
Et c'est vrai qu'il va falloir qu'ils se positionnent concrètement. Donc aujourd'hui, on a deux scénarios. Soit ils viennent tous ou quelques-uns pour le TQO. Et derrière, on aura cette possibilité de compléter l'équipe pour les jeux. Bon, deuxième solution, aucun des trois vient pour les raisons X ou Y. Hein. Pour le moment, je suis c'est très, très théorique. Et derrière, on cherche à se qualifier avec une équipe et puis peut-être compléter l'équipe parce que ce qu'on veut, c'est les Jeux Olympiques pour gagner une médaille. On a une capacité de jouer une médaille. Donc, on est sur des objectifs différents. Avec peut-être des équipes différentes, voilà, tout simplement. Donc tout ça, il y aura un travail itératif à faire avec les joueurs, avec les agents de joueurs, avec les assurances, avec le staff, voilà, tout simplement. Mais bon, moi, je suis quand même globalement résolument optimiste. Hein.
Oui, et dans le cas qu'on souhaite tous et qu'on espère de se qualifier dans la zone franche, et on a tous vu, lu. Ce qui s'est passé sur qu'Anthony avait émis des doutes et tout. Vous n'avez pas pensé, je lui ai dit déjà en direct, d'aller faire la préparation à San Antonio. il paraît qu'il y a des installations. TQO, non, après le TQO entre les deux, j'imagine que Vincent va donner un peu de break. Moi, ça me paraît tellement... Je veux dire, Tony a un enfant qui arrive, ils sont tous un peu ricains, on aura le décalage avalé, et puis il y a quelques endroits où on peut s'entraîner à San Antonio. Quoi.
Alors sur le programme officiel, il y a 10 jours de break officiellement entre la fin du TQO et le stage de prépa pour post-TQO si la France est qualifiée. Dans la foulée, il y a une semaine de stage en Argentine, sous réserve bien évidemment que la France soit qualifiée, pour après rejoindre Rio 48 heures avant la cérémonie d'ouverture.
Oui.
Qu'on soit clair, Jacques.
Oui. Bon,
c'est une bonne idée. Moi, je sais pas, peut-être la soumettre à.
C'est gentil
de
le dire.
Ce qu'il y a de sûr, bon, moi je la prends, mais c'est vrai qu'il y a de belles installations à San Antonio. Mais aujourd'hui, supposons, et je le souhaite, que Tony et Boris fassent la finale, gagnent la finale. Bon, ils vont échelonner quasiment le lendemain sur un ou deux matchs à l'équipe de France pour partir au TQO. Moi, je crois qu'après, ils ont besoin de souffler. Il y a un vrai break à faire, qu'ensuite, on se remette. En situation de travail pour les Jeux Olympiques. Bon, moi, je souhaite réellement pouvoir réfléchir au programme des Jeux Olympiques. Bon, aujourd'hui, c'est le TQO. Le TQO, il est quand même pas simple. À mon avis,
non,
il va être pas simple du tout. Hein.
Non, il est pas simple. Et je crois que tu as totalement raison, Jean-Pierre. En mille Canada, dans notre poule, le premier match contre la Philippine, ça va être une ambiance démoniaque, en plus avec André Blatch et Jordan Clarkson. On sait que peu de gens le savent, mais nous on le sait que les Philippines sont un pays de basket. D'ailleurs, au niveau des fans, Tony, il s'en est rendu compte. Les Néo-Z, c'est jamais cadeau. Et puis le croisement après avec Turquie, parce que je vais pas faire un jour au Sénégal, mais quand même, entre Turquie et Canada, c'est pas cadeau non plus.
Ah oui, non, c'est sûr. En plus, on a la chance de jouer le premier jour contre la Philippine. Ils seront On sait que la compétition, ils vont baisser d'un cran, mais le premier jour, ils vont être complètement
excités. Ah, ils sont intacts physiquement et mentalement. Tu as totalement raison.
Ouais.
Alors Jean-Pierre, on va profiter également de votre présence dans ce Tipeee Show pour aborder ce qui un petit peu remue le milieu du basket, mais plus franco-français, même si ça concerne l'ensemble du territoire européen, puisque depuis quelques mois maintenant, d'un côté, nous avons la FIBA Europe, la FIBA, la Fédération Internationale et son contingent européen qui souhaitent créer une Champions League, un peu sur le modèle finalement de l'UEFA avec le football. Et de l'autre côté, nous avons l'Euroleague, qui est la compétition majeure actuelle, qui souhaite quasiment fermer un petit peu les portes de cette compétition pour accueillir des tickets réservés et pour accueillir des clubs qui seraient prêts à signer un bail d'une dizaine d'années, moyennant bien évidemment un ticket garanti de plusieurs millions d'euros pour ces clubs-là. Donc il y a une guéguerre entre l'Euroleague et la FIBA Europe. Vous, en tant que président de la Fédération française, vous êtes positionné très tôt pour que les clubs français participent à la future Champions League de la FIBA et qu'ils ne participent pas à l'Euroleague. Sinon, il y aura des contraintes et des sanctions vis-à-vis de ces clubs et de la Fédération. Où on en est aujourd'hui, sachant que la semaine prochaine, il y a une présentation officielle à Paris, c'est un petit peu symbolique aussi, de cette fameuse Champions League qui, pour l'instant, n'a quasiment aucun gros club européen, puisque les 10-11 clubs européens des différents pays concernés sont déjà inscrits à la future Euroleague.
Ouais, bon, moi je vais faire un peu de pédagogie. Je regrette bien évidemment cette situation. Et quand on regarde, il y a 3 ans, j'étais le seul président de fédération à avoir combattu le nouveau calendrier de la Fédération internationale. Parce que ça nous prive, nous, basket français, de nos joueurs NBA. Ça nous prive d'une valeur de notre équipe nationale sur le plan commercial, etc. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Donc derrière ce calendrier, il a été voté, il est décidé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le mettre en application, parce que c'est quand même demain ce qui va être notre pilier au niveau des fédérations, au niveau du basket européen et du basket mondial. Donc ce qu'il faut, c'est que si on est privé des joueurs NBA, qu'au moins on puisse avoir la majorité des joueurs libres sur le territoire, parce que quelque part les Africains qui jouent en Europe devront partir jouer dans leur pays d'Afrique, etc., etc. Donc tous les pays sont concernés. Donc derrière, moi ce que je regrette, c'est que l'Euroleague, je rappelle quand même, ça fait 2 ans qu'ils ne paient plus leur fee à la FIBA Europe. Ils doivent quand même 1 million d'euros à la FIBA Europe, et derrière la FIBA Europe a ouvert un recours vis-à-vis d'eux. Donc derrière, ce que je regrette, c'est que leur seul intérêt, c'est l'intérêt commercial, de vouloir faire une compétition, je dirais, commerciale, fermée. C'est une ligue de clubs qui propose à un moment donné à des clubs dans des championnats nationaux de jouer dans une compétition fermée, sans tenir compte des fenêtres. Donc ça, moi je suis désolé, on est une cinquantaine de pays en Europe. On ne peut pas accepter à un moment donné dans cette mission de former des jeunes joueurs, de développer notre discipline sur le territoire, d'être à la merci de quelques personnes qui à un moment donné ne veulent faire qu'une structure commerciale. Donc ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, on ne peut pas à un moment donné organiser, un conflit contre l'Euroleague sans proposer notre propre compétition. Donc l'idée, c'est qu'à Germain, à la FIBA, c'est de faire cette compétition. Alors, on a une image de la FIBA des années 2000 qui était une image assez dramatique. Je pense qu'aujourd'hui, l'image de la FIBA est bonne. Il y a des gens qui ont envie de bosser et de faire du bon travail. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est remettre une harmonisation sur le territoire européen, voilà, tout simplement. Donc on va proposer
le point de vue de Jacques avant de se quitter.
J'entends ton discours, Jean-Pierre, mais tu peux pas dire que ça n'est qu'une entreprise commerciale, l'Euroleague. C'est l'excellence du niveau de basket en Europe, on n'a qu'à voir. C'est un lien direct avec la NBA. Qu'est-ce qu'on va... Tu parles de formation à juste titre, et la nôtre est bonne tant au niveau fédéral qu'au niveau des clubs. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos gosses de jouer en deuxième ou troisième division européenne, Jean-Pierre? Attends un instant. Ensuite, au niveau du recrutement, demande à Tony si ce sera plus facile d'avoir des joueurs étrangers pour venir jouer en Euroleague ou pour venir jouer dans une coupe où il n'y a pas les grosses expositions, etc. On va se couper de beaucoup de choses. Jean-Pierre, sur ce dossier-là, il faudrait qu'on en parle longtemps, mais je crois qu'on On peut pas être Panurge, on peut pas être les moutons de Panurge, on peut pas suivre le mouvement. Certes, on passe pas en Euroleague depuis 9 ans, mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à quelque chose qu'on doit pas en voir l'ambition. Et on n'a pas le droit de se couper de l'excellence, Jean-Pierre, je crois pas.
Jacques, demain l'Euroleague est une structure privée. Si derrière des clubs français veulent aller en Euroleague, ils iront en Euroleague.
Mais ils feront pas le championnat de France. Bah ouais, c'est ridicule.
Parce que les règles vont changer, ce seront plus les règles FIBA, parce que derrière les terrains vont peut-être changer de ligne, etc.
Donc tu souhaites pas, Jean-Pierre, tu ne souhaites pas, en tant qu'amoureux du basket, que le basket soit joué avec les mêmes règles dans le monde entier, sur les mêmes surfaces dans le monde entier. Et ben voilà, allons-y.
Je suis d'accord, mais bon, on ne parle pas longtemps de ça, si tu veux, c'est cher. Hein.
Justement, l'occasion la semaine prochaine d'en reparler avec la présentation de la Champions League à Paris.
Et aujourd'hui, accessoirement, il y a réuni tous les clubs d'Euroleague.
Avec l'Euroleague, exactement. Merci Jean-Pierre, c'est un sujet qui nous passionne tous, mais on aurait quasiment pu faire une heure avec tous les tenants et les aboutissants aussi. On n'a pas parlé d'IMG qui s'est maqué avec l'Euroleague et qui apporte aussi sa manne. Exactement. Merci Jean-Pierre Sutta, le président de la Fédération française de basket. À très bientôt, Jean-Pierre Sutta. Tony, tu ne bouges pas. On comprend bien évidemment que, vu des États-Unis, c'est très très loin. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de saison. Bien évidemment, Jacques, Tony, vous ne bougez pas. Le temps pour moi de repasser par les directs. Le basket d'abord, Gravelines, Nanterre, justement, la proie, Jean Baumel.
Et c'est reparti depuis 1 minute 20. Et Gravelines est mené sur son parquet 37 à 46. Donc pour Nanterre qui a bien terminé le deuxième quart-temps et qui démarre très bien le troisième.
Et donc la suite de Steepy Show, c'est jusqu'à 22h comme tous les lundis, avec Tony, avec Jacques Monclin et vous au 32-16. L'événement dans quelques instants, Luca Digne, le joueur de l'AS Roma, prêté par le Paris Saint-Germain, est dans Steepy Show. À tout de suite.
Le plus grand show de basket est sur RMC. Le Tony Parker Show. RMC, jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Et Jacques Monclar, jusqu'à 22h, comme tous les lundis, c'est le Tipeee Show sur RMC. Et à partir de 22h, retour du football avec l'after de Gilbert Bribois et tous ses chroniqueurs avec Daniel Riello et les drôles de dames, notamment pour revenir sur le titre du Paris Saint-Germain avec la victoire 9-0 à 3. C'était hier. Tiens d'ailleurs, Tony, t'as suivi ça à distance, j'imagine, quand même un peu? Le titre du PSG. Le titre du PSG.
Ah oui, ça fait depuis longtemps qu'on savait qu'ils allaient gagner. Ce qui m'intéresse, c'est la Champions League.
Alors la Champions League, ce sera...
On y revient
finalement. Non, on connaîtra l'adversaire du PSG vendredi avec le tirage au sort de la Ligue des Champions et des quarts de finale. Justement, la Ligue des Champions, on pourra en parler dans quelques minutes avec Luca Digne, le défenseur de l'AS Roma, qui sera avec nous dans quelques instants. Mais on accueille un autre puncher, un autre combattant. C'était ce week-end l'arrivée de Paris-Nice, c'était sur la promenade des Anglais. Nous sommes avec le coureur de Cofidis, il a 25 ans, Nasser Bouani. 3 étapes sur le Paris-Nice, avec celle notamment remporté jeudi dernier. Nasser Bouani, le sprinter de Cofidis, avec toi dans ce Steepy Show, Tony.
Salut Nasser, comment ça va?
Salut, ça va et toi?
Ça va bien, hein? Comment tu te sens alors au lendemain de l'arrivée de Paris-Nice?
Bah, ça va, récupération, là on est actuellement en stage à Nice avant Milan-San Remo, donc récupération, là, cette heure-ci je suis en train de me faire masser tranquillement.
Et t'as digéré alors ton déclassement de la deuxième étape alors que tu l'avais remporté en sprint?
Ouais, sur le coup, un peu de mal à digérer, mais ça va qu'il y a eu la victoire après. Ça a permis, on va dire, d'effacer la déception, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais quand même vraiment déçu, quoi.
Normal. Et t'as toujours été sprinter ou c'est venu au fur et à mesure?
Ouais, les qualités de sprinter, je les ai toujours eues, même en étant jeune, tu vois, avant de passer professionnel. Donc, on va dire, ça, c'est comme un sprinter de 100 mètres. Faut avoir quand même les prédispositions à la base et avoir la fibre. Donc après, on essaie de travailler sur le maximum et bien sûr, après, il y a tout un travail avec l'équipe pour être posé dans les meilleures conditions dans le sprint final.
Et on va dire, c'est quoi les qualités essentielles pour un sprinter?
Bah, c'est d'être explosif, hein, c'est ça, dans les 200 derniers mètres. C'est vraiment déjà d'être endurant et avoir le maximum de réserve pour aller sprinter dans les 200 derniers mètres.
Et la chute, on y pense quand on est sprinter?
Non, du tout. On pense pas du tout à ça parce que justement, je pense que si on pense à ça, ça nous bloquerait parce que c'est vrai que des fois, quand on voit les images après coup, on se dit ouais, on est inconscient ou on prend des risques. Mais non, on pense pas du tout à ça sur le moment, quoi.
Et t'es déjà tombé lourdement?
Ouais, toute l'année dernière, on va dire, c'était mon année de malchance avec beaucoup de chutes, et notamment même celle du championnat de France où je suis tombé lourdement avant le Tour de France.
Ouais, donc il faut être un peu fou pour faire du sprinter.
Ouais, il y en a beaucoup qui disent ça, hein, quand on nous voit des bouillies à 60-70 km/h dans le final, faut quand même, on va dire, débrancher le cerveau.
Ah ouais, donc c'est 60-70 km/h. Donc,
70 km/h sur un vélo,
prenez quand même des gros risques, quand même.
Ouais, c'est clair. Après, c'est dans les descentes, on frôle les 90-100 km/h des fois. Donc, c'est pas non plus. C'est aussi dangereux quand on fait des descentes de col. Hein.
Et j'avais vu que tu avais commencé la boxe à 6 ans. Ton modèle était Mike Tyson. T'as pas envie de continuer?
Ouais, moi, je suis un fan de boxe. Hein. Tous les hivers, je vais m'entraîner 3 mois. Je fais des stages, notamment dans les Ardennes. Chez Amidzaï, mais j'aime ça, et depuis tout petit j'écoute toujours fait de la boxe, donc ça me permet surtout pour de m'entretenir et faire autre chose que du vélo pendant la période hivernale. Mais c'est vrai que ouais, c'est mon idole, ça a toujours été Mike Tyson. Hein.
Bon, allez, Nasser, à quand une victoire alors sur le Tour de France?
Bah, j'espère cette année ça va le faire. En tout cas, je vais faire le maximum pour être prêt pour ce Tour de France, ce qui ça va être un gros objectif pour l'équipe Cofidis. Et cette année, le gros objectif, c'était Paris-Nice, Milan-San Remo au début d'année, qui va arriver, et ensuite le Tour de France, il y aura les championnats du monde en fin de saison.
Et Rio, ça fait partie des objectifs?
Non, c'est un parcours vraiment pour grimpeurs. Il doit y avoir 4000 mètres de dénivelé, donc l'entraîneur de l'équipe de France, il va prendre que des grimpeurs pour la sélection.
Des punchers grimpeurs, Tony, parce que tu sais, c'est un circuit et ils finissent par un raidillon terrible.
Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc le Tour de France, on va dire, c'est le plus gros objectif de cette année, alors.
Ouais, ça va être le gros objectif. Hein. De toute façon, c'est l'objectif pour pas mal d'équipes. Il faut être prêt à 100% pour le Tour de France. Et bien sûr, ouais, les championnats du monde qui auront lieu au Qatar cette année, pour sprinter.
Et ça, c'est après, c'est après Rio. Il y a le triptyque.
Ça, c'est au mois d'octobre. Ouais.
Bah, merci beaucoup, Nasser. Merci beaucoup et bonne chance et bonne fin de saison.
De rien, bah merci.
Merci à Nasser Bouani, le coureur, le sprinter de la Cofidis, 25 ans, qui donc va enchaîner quand même, mine de rien, championnat de France en juin, le Tour de France en juillet, les Jeux Olympiques en août, et donc, vous l'avez compris, les championnats du monde en octobre au Qatar. Un joli programme. Autre joli programme, même s'il a été éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions de football, c'est l'événement de Stipie Show, Tony, puisque nous sommes avec le jeune joueur, on a tendance à l'oublier, il n'a que 22 ans, prêté par le Paris Saint-Germain, le jeune latéral gauche de l'AS Roma, troisième, son club du championnat d'Italie. C'est Lucas Digne qui est dans ce Tipeee Show avec toi, Tony.
Ça va, Lucas? Tu vas bien?
Ouais, ça va, et toi? Bonsoir.
Ça va. Bah, en pleine forme. Hein. Comment ça se passe alors, ta saison à Rome?
Ah bah, ça se passe bien. Là, on est sur 8 victoires d'affilée en championnat. On est remonté au classement. Donc non, ça se passe super bien. J'ai vu que ça se passait pas mal à domicile aussi. Pardon?
Ouais, ça se passe très bien. Nous, on n'a pas encore perdu, donc ça se passe bien. Pour lui, c'est dur. Et ça va, la vie italienne, ça te plaît? C'est un football qui
plaît? Ouais, non, franchement, c'est un football super intéressant, super tactique. J'apprends énormément là-bas, en plus, comme c'est une mentalité un peu différente, où il y a beaucoup plus de vidéos, c'est vachement plus défensif, donc non, c'est vraiment bien pour mon poste.
Et puis, donc, t'as l'impression que tu progresses ou t'as changé de style de jeu depuis que t'es en Italie?
Ouais, je sens vraiment la différence au niveau, comme je disais, au niveau défensif et au niveau tactique, c'est vraiment une autre mentalité. Tout doit être bien organisé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Toute la semaine, on travaille dessus. Donc, non, c'est vraiment important pour un défenseur et je suis vraiment content d'être là-bas.
Et t'as connu un changement de coach là, avec le départ de Rudy Garcia, que t'avais connu à Lille, qui t'a fait venir justement à Rome. Ça t'a fait bizarre un peu qu'il soit parti? Ah, il n'a pas eu le choix.
Ouais, ça m'a fait bizarre parce que c'était le coach qui m'avait lancé dans le monde pro, donc forcément j'avais un lien particulier avec lui. Mais après, c'est sûr que c'est des choses qui arrivent aussi dans le monde du foot. Et après, maintenant, on a un nouveau coach qui fait un très bon travail avec son nouveau staff, donc ça se passe très bien pour l'instant. Donc faut que ça continue.
Bon, bah toi aussi, dans ton équipe, t'as un gars de 40 ans, comme moi. Nous, on a Tim Duncan qui va avoir 40 ans, là. On est à Francesco Totti, donc ça te fait quoi d'évoluer à côté d'un tel joueur?
Ah bah, c'est magnifique. En plus, c'est quelqu'un qu'aime énormément partager. J'avais un maillot de lui quand j'étais petit chez moi, donc non, c'est avec le logo Kappa. Ouais, non, c'est forcément quelque chose de magique. Donc non, en plus, c'est, comme je disais, c'est quelqu'un qui partage énormément et qui est vraiment chaleureux. Donc non, c'est vraiment super.
Pour Tony, Lucas, bon,
tu pourras lui dire que moi aussi j'ai acheté son maillot quand j'étais petit. Hein. J'avais son maillot.
Je lui dirai, demain.
C'est vrai ça, Tony.
Moi, j'avais celui de Tim Duncan, moi. Ouais.
Mais c'est bon les gars, ouvrez une succursale.
Et Tony, il faut que tu lui en envoies à nouveau parce qu'il doit dater de celui de Tim Duncan.
Non, il était trop petit, j'avais 9 ans.
Il avait 9 ans, bah ouais. Et ils ont changé les maillots, Lucas, depuis le temps.
Je sais.
Et l'objectif principal alors pour Rome, c'est la qualification pour la Ligue des Champions, là, parce que là vous êtes bien, là, vous êtes 3e.
Ouais, c'est ça. Ben, faut qu'on essaye au minimum de finir 3e. Et après, si on peut aller chercher la seconde place, pourquoi pas. Ils sont pas très loin devant, donc après, ce sera à nous de continuer notre bonne série et d'essayer d'aller chercher le plus haut possible.
Et là, par rapport à ta situation, t'es prêté jusqu'à la fin de la saison. T'aimerais bien rester à Rome. T'as déjà pris ta décision?
Non, parce que j'ai pas de décision prise, parce que ça dépend pas du tout de moi, en fait. À partir de ce moment-là, moi, je suis très bien à Rome et je donne tout pour le club jusqu'à temps que j'y serai. Et après, on verra ce qui se passera. Bien sûr, après, je me sens bien dans le club. Tout se passe bien pour le moment. Donc après, ça dépend pas que de moi.
Et justement, tu as suivi un peu les exploits du PSG. Ils ont gagné le titre. Là, tu penses qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions cette saison?
Ouais, je pense qu'ils peuvent le faire. Ouais, ils ont une très bonne équipe. Ils ont montré, en plus, là, ils sont tranquilles pour pouvoir gérer jusqu'à la fin de saison, pour pouvoir vraiment se concentrer que sur la Ligue des Champions. Donc je pense que ça peut être un avantage comparé aux autres saisons.
Et puis l'Euro en France, alors ça reste un objectif pour toi?
Ouais, bien sûr, ouais. C'est un objectif pour moi. J'étais parti chercher du temps de jeu aussi pour cet objectif-là, pour pouvoir faire l'Euro en France. Et après, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver.
On rappelle qu'on est avec Lucas Digne, hein, le défenseur de l'AS Roma, Tony, dans ce Tipeee Show.
Et bah non, mais moi je voulais juste terminer justement, parce que vivre une compétition dans son pays, ça doit être un rêve quand même. Est-ce que tu as eu des échanges avec le sélectionneur ou des membres du staff?
Non, j'ai pas eu d'échange. Je sais pas s'il en a énormément avec les joueurs durant la saison. Après, j'ai été pris les deux dernières fois, donc après c'est à moi de continuer de bien travailler pour pouvoir faire en sorte que le sélectionneur me rappelle.
Tu attends la liste de jeudi avec impatience, parce qu'on rappelle, hein, il y aura deux matchs amicaux de prépa aux Pays-Bas et contre la Russie d'ici fin mars, Lucas.
Ouais, c'est ça.
Tu attends avec sérénité cette liste, vu que tu as été appelé les dernières fois?
Je sais pas. Ouais, non, j'ai été appelé les dernières fois. Après, comme je disais, moi, j'ai tout donné et j'ai tout donné pour pouvoir être appelé. Après, je respecte les choix du sélectionneur et
En tout cas, t'as l'air de.
Bien sûr que j'espère être appelé.
En tout cas, t'as l'air de suivre la NBA. Et, ça doit pas être si facile que ça quand on est joueur pro de suivre les matchs la nuit comme ça.
Ah non, je regarde les résumés le lendemain, souvent avec Seydou Keïta. Ouais, bah je peux pas. C'est difficile. Il faut que je dorme. Après,
il est bon.
Il y a une excellente émission à la mi-journée.
Et tu fais sa pub. Et Montclar qui place son emploi fictif à la télé. Merci Lucas.
Merci
et merci à toi Lucas de ton sourire et au plaisir bien sûr de se retrouver sur l'antenne d'RMC pour les prochaines échéances. Les échéances à venir, c'est d'abord le direct Red Star Auxerre dans ce Tipeee Show, Arnaud Souk.
Et on est quasiment à l'heure de jeu ici du côté de Beauvais, le stade Pierre Brisson, et Auxerre qui mène désormais 2-0 face au Red Star. C'est Alexandre Vincent qui est venu donc à ajouter un but il y a quelques minutes, qui ajoute un but à celui inscrit par Seri Guirassy en première période. Auxerre qui se replace pour l'instant plus que jamais dans la course pour la montée.
La proie de basket, Gravelines Nanterre, ça continue Jean Baumel.
Exactement, et là c'est la fin du troisième quart-temps et plus 15 points d'avance pour Nanterre, 61-46. Ils avaient été battus chez eux au match aller, les joueurs de Nanterre. Et bien là ils se rattrapent, il reste un quart-temps, ça semble compliqué pour Gravelines. Donc plus 15, 61-46 pour Nanterre ici au Sportica.
Allez, à tout de suite, messieurs, pour la suite de cette rencontre avec la Ligue 2 également. Tony qui vient de nous prévenir en antenne pendant ces deux directs qu'il avait été rappelé par les Spurs de San Antonio, obligé de partir précipitamment à l'entraînement. C'est aussi ça le Tipeee Show. Quand on fait une émission depuis San Antonio avec Tony Parker, tous les lundis sur RMC, il reste quelques minutes à passer ensemble avant 22h. Dans un instant, vous êtes avec Jacques Monclar pour revenir sur toute l'actu de la NBA de la semaine. Vos questions au 32-16, le hashtag RMC Live avec Jacques Monclar jusqu'à 22h. Tony qui nous laisse et qui vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, bien sûr, qui tiendra le rendez-vous 21h, 22h. C'est le Tipeee Show.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Avec surtout Jacques Monclar, puisque si vous nous rejoignez sur RMC, il y a quelques minutes, Tony qui a été obligé de partir précipitamment, rappelé par les Spurs. Gros programme pour San Antonio cette semaine, avec des matchs face à Portland, face à Golden State notamment. Et il y en a un dernier qui m'échappe. Jacques, tu vas m'aider, bien sûr. Contre les Clippers, c'est demain, et oui, direction Los Angeles.
Et puis surtout samedi soir, ce choc contre les Warriors. Qui va donner quand même une idée de ce que peut être l'opposition entre les deux, parce que le premier match avait été un blowout, il y avait eu 30 points en faveur des Warriors.
On avait bien fait monter la sauce, on avait tout de suite compris que Golden State ne rigolait pas.
Ouais, surtout dans le troisième quart-temps, mais bon, les Spurs n'étaient pas au complet, est-ce qu'ils l'avaient joué, on ne sait jamais, avec Popovic. On verra, parce que la décibilité à domicile, ils y tiennent, 41 victoires de suite pour les Spurs.
Ouais, sur les deux saisons, et ça fait partie des trois meilleures séries de l'histoire de la NBA.
Alors, sachant qu'on en parle ici, mais que Golden State est devant encore, parce que alors eux aussi, les Spurs, ça fait un an qu'ils n'ont pas perdu chez eux, et les Warriors, c'est la dernière équipe qui a gagné là-bas, c'était Chicago, en prolongation, et ça doit faire 15 mois maintenant.
Ouais, donc c'est vraiment une saison exceptionnelle qu'on vit. D'ailleurs, toi qui es un vieux routier de la NBA et du basket, très honnêtement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un niveau de cet acabit-là en NBA en saison régulière, parce que on parle de Golden State, mais San Antonio qui est derrière fait quelque chose d'exceptionnel.
Oui, puis il y a d'autres équipes, il y a Cleveland qui prend position, il y a des joueurs exceptionnels, il y a des petits exceptionnels avec Damian Lillard, avec Kyle Lowry, avec Kemba Walker qui sont pas au niveau tout à fait de Steph Curry, mais pas loin. Et puis l'Est qui refait surface.
Alors justement, Adam au 32-16.
Boston qui redevient Boston.
Adam au 32-16 ne veut pas parler de Boston, mais voulait parler avec toi des Hornets de Michael Jordan et Nicolas Batum. Salut Adam.
Salut, comment ça va?
Salut Adam.
On est au top et t'as l'air au taquet sur les Hornets, on t'écoute.
Bah moi, si tu veux, là cette année, l'équipe que je pousse le plus, c'est clairement les Hornets, parce que je pense que déjà les Spurs n'ont pas besoin de moi. Et les Hornets. Ils sont toujours, si tu veux, ils sont très chauds là. Ils sont sur une série de 7 victoires d'affilée. Il y a Nico qui est jamais loin du triple double, Kemba qui est bouillant. On attend un peu que Al Jefferson retrouve un petit peu son jeu. Jérémy Lin qui commence à aussi un peu se chauffer et tout. Je pense que c'est une équipe qui, si elle garde cette confiance, peut impressionner un peu tout le monde sur les playoffs. Je voulais savoir un petit peu votre avis et voilà, je voulais revenir un peu sur cette réussite.
Charlotte, cinquième à l'Est pour l'instant, Jacques.
Oui, t'as totalement raison. On va rajouter juste dans leur bonne alchimie l'excellente saison de Marvin Williams et l'addition de Courtney Lee qui est un super plan. Tu as raison sur Al Jefferson, mais il y a le grand Zeller et quand il est pas blessé, le grand Hovs qui font des gros baobabs qui peuvent toujours mettre une tarte ou deux. On peut regretter, mais ils auraient sans doute pas pris Courtney Lee, qui est plus Michael Gilchrist, qui est un vrai bon joueur aussi. Mais c'est vrai que leur alchimie est bonne, que leur coach Steve Clifford fait du super boulot et que Nico là-bas est hyper respecté. Tu sais ou tu sais pas, j'ai assisté au match de Cleveland qui a été le déclenchement un peu de leur bonne période juste avant le All-Star Game. Et il y a une ambiance du feu de Dieu. Michael Jordan est complètement impliqué là-dedans. Le retour aux couleurs, le retour à la mascotte historique. Ouais, bien sûr.
Enfance, quoi.
Voilà, Larry Johnson. enfin la tienne, moi j'étais déjà.
Oui,
Merci
Bob, Derek Johnson,
c'est gentil.
Alonso Morini.
Voilà, voilà toute cette période-là, Del Curry.
Oui, aussi, papa 2.
Qui commande d'ailleurs.
Glenn Rice aussi.
Voilà, non, il y a une vraie histoire, et puis la Caroline du Nord est avec l'Indiana.
Vraie terre de basket.
La vraie, ouais. vraie terre de basket américaine. Non, ouais. C'est bien, et l'année prochaine, il y a un vrai buzz là-bas. Parce que l'année prochaine, il y a le All-Star Game.
Oui. Alors, Adam, moi, sur Nico Batum, toi qui es fan des Hornets, la question à Jacques.
J'entends souvent, moi, parce que je regarde les matchs en direct en anglais avec les commentaires, et on lui reproche un peu, plus ou moins, d'être limite trop altruiste à Nico. Donc,
c'est les gars qui commentent n'ont pas vu jouer Boris Diaw.
Voilà. Donc, je sais pas si on peut vraiment être trop altruiste. Enfin, aux États-Unis peut-être. Chez nous, c'est jamais un défaut, je pense. Après, voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur ce commentaire-là.
Est-ce que justement, Nico est le franchise player annoncé des Hornets? On en a parlé avec Jean-Pierre Suta quelque part, puisqu'il va re-signer certainement.
Oui.
Il va y avoir un gros contrat derrière. Il peut rester pour une somme maximale?
Maximale ou pas maximale, entre 15 et 20, oui. Dans le nouveau contrat NBA, mais je pense que le franchise player, c'est clairement...
20 millions.
C'est Kemba Walker, qui est un joueur qui est sorti de UConn, il avait pas de shoot, et maintenant, il a une régularité au shoot, il a une vitesse exceptionnelle, je répète, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il a pas été All-Star, mais il a une moyenne de points, il a une vitesse d'exécution, c'est...
Les deux font la paire,
c'est un phénomène de foire, oui, bien sûr, et je répète, le vieil homme, là, de UNC, Marvin Williams. UNC, c'est l'université de North Carolina, le fameux lien avec Michael Jordan et la Caroline du Nord, bien sûr. Mais cette équipe-là est intéressante et sympa à voir jouer. Moi, j'étais aussi impressionné par le discours, l'analyse en conf de presse, l'attitude de Steve Clifford. Parce qu'on peut pas avoir une très bonne équipe sans un très bon coach.
Voilà, Adam. Merci d'être venu dans ce Tipeee Show. À très bientôt.
Avec plaisir.
À très bientôt.
Salut.
Et la prochaine fois que tu rappelles, Tony sera là. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Tony qui nous a laissé pendant quelques minutes, rappelé précipitamment par le staff des Spurs. Le temps pour moi de dire merci à Jacques Monclar de nous avoir accompagné comme tous les lundis jusqu'à 22h. Une heure complète avec Jacques. Tony qui revient la semaine prochaine, bien évidemment. 21h, 22h. Et regarde-le. La crinière blonde, le cheval égaré de l'after foot rentre dans ce studio.
Il est là.
C'est l'after, messieurs dames, avec Gilbert Bribois jusqu'à 22h. Salut Gilbert.
Jusqu'à minuit même, puisque là, il est 22h dans 3 minutes. Minuit, l'after, bien sûr, comme tous les lundis, avec des directs, notamment Red Star Océan Ligue 2, Arnaud Souk.
Oui, et toujours 2-0 pour la JOCR ici au stade Pierre Brisson à Beauvais face au Red Star. On joue depuis 71 minutes de but inscrit donc par les Auxerrois, par Guirassy et Vincent. 2-0 donc dans cette 30e journée de Ligue 2.
Et du basket avec Gravelines Nanterre, Jean Bonnel. Salut Gibo.
Salut Gilbert. Et 56 pour Gravelines, 65 pour Nanterre. Il y avait plus 15 tout à l'heure, vous l'avez compris, les joueurs nanterriens qui sont plus 9, mais c'est loin d'être terminé. Il reste 4 minutes dans le dernier quart-temps.
Merci Gibo. L'after dans quelques instants avec vous. 32-16, on vous attend nombreux. On se retrouve juste après les infos.